علي الصوت بالغنى لسه الأغاني ممكنة.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur les ondes de Radio Aligre pour ce nouveau numéro d'Horizon 21. Nous sommes heureuses et heureux de vous retrouver pour cette émission qui, je le rappelle, vous est proposée un mardi sur deux par les médias indépendants Afrique 21 et Orient 21 pour des regards croisés sur l'Afrique et le Proche-Orient. Nous sommes en direct pendant une heure sur Radio Aligre 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout en France sur le DAB. Je suis Sarah Grira et pour m'accompagner aujourd'hui à la technique, Bruno Mandé. Nous sommes le 15 octobre 2024, plus d'un an après l'opération du 7 octobre 2023 du Hamas. Nous allons parler aujourd'hui de Gaza et plus généralement de la Palestine, bien sûr, mais aussi du Liban, qui est touché à son tour par les attaques israéliennes. Il sera question de politique, d'actualité, bien sûr, mais aussi de poésie et de littérature avec mes trois invités. Alain Gretsch, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur et fondateur des deux revues en ligne Afrique 21 et Orient 21, vous avez signé en mai dernier aux éditions Les liens qui libèrent Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir. Nada Yafi, bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne diplomate et interprète en arabe, on vous doit notamment un recueil de poésie en édition bilingue qui sort ce vendredi, 18 octobre, dans la collection Orient 21 aux éditions Libertalia. Cela s'intitule « Que ma mort apporte l'espoir », poèmes de Gaza, des poèmes que vous avez sélectionnés, traduits et pour lesquels vous signez la préface de ce recueil. On va y revenir. Et enfin, Karim Khatan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain palestinien né à Jérusalem. Vous signez la postface du recueil dont je viens de citer, mais aussi un deuxième roman aux éditions Elizad, L'Eden à l'aube, sélectionné notamment pour le prix Renaudot,
oui.
C'est ça, et le prix Goncourt.
Non, Renaudot, ça suffit.
Le Goncourt étranger.
Non, juste Renaudot et quelque chose.
C'est une émission un peu spéciale aujourd'hui pour Orient 21, média indépendant et en libre accès, puisque notre correspondant Lami Abou Jamouz, dont nous publions régulièrement le journal de bord de Gaza depuis fin février, vient de recevoir trois récompenses au prix Bayeux pour les correspondants de guerre. C'est une première dans l'histoire de ce prix et deux de ses récompenses sont dans la catégorie presse écrite pour son journal de bord de Gaza sur Orient 21 justement. On va écouter tout de suite Lami Abou Jamouz.
Mesdames et messieurs, c'est avec une grande et profonde émotion que je vous parle ce soir. Depuis Gaza, depuis ma tente, la tente qui est devenue un peu le symbole de 1,7 million de personnes qui étaient forcées de se déplacer dans la bande de Gaza, voire plusieurs déplacements. Je vous parle aujourd'hui à Gaza alors que j'aurais bien aimé être avec vous et parmi vous, de partager ces moments de joie avec vous. Là, je vous parle de Gaza vers Bayeux où il y a d'intersections.
Voilà, Lami Abou Jamouz, c'était la vidéo qui avait été diffusée samedi 12 octobre, c'est ça, au prix Bayeux des correspondants de guerre. C'est une vidéo qu'il a filmée depuis sa tente, justement, comme il le dit Adil Balah, dont on vient d'écouter un extrait. Ils sont près, comme il le disait, près d'1,7 million de déplacés. C'est une vidéo qu'il a enregistrée donc après avoir appris qu'il remportait ces trois prix à Bayeux et trois prix qu'il dédie à sa famille et à ses 172 confrères et consoeurs journalistes tués depuis un an par Israël à Gaza. Alain Gretsch, un commentaire.
Je crois que depuis le début de la guerre, on a une stratégie israélienne concernant les médias, c'est-à-dire le contrôle de l'information et le contrôle du récit. Alors, il y a plusieurs manières de contrôler ce récit. Ils l'ont fait à partir du 7 octobre en essayant de présenter leur guerre comme une guerre de défense, comme une riposte à une agression dont une agression incompréhensible dont ils auraient été dont Israël aurait été l'objet. Mais une des manières de contrôler le récit, c'est d'empêcher qu'il y ait des images. Et c'est la première fois, je crois, depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a un conflit qui dure maintenant depuis plus d'un an et où il n'y a pas de correspondants étrangers qui sont autorisés à aller. Et ils ne sont pas autorisés pour des raisons qui tiennent à la décision israélienne. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a eu une pétition d'un certain nombre de journalistes qui sont basés à Jérusalem auprès de la Cour suprême israélienne pour lever cette interdiction, que la Cour suprême israélienne a dit non, pour des raisons de sécurité. Pas la sécurité des journalistes, mais la sécurité d'Israël. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et on a vu combien de temps il a fallu pour que les images qu'on voit maintenant relativement régulièrement de la destruction de Gaza arrivent, en tous les cas, au public occidental.
D'où l'importance, du coup, justement, et la symbolique, en fait, de ce prix décerné à Rami. Un an après le 7 octobre 2023, Orient 21 a publié une série d'articles sous le titre commun de Palestine d'une Nakba à l'autre. Le terme Nakba, donc, veut dire catastrophe et renvoie au nettoyage ethnique subi par les Palestiniens entre 1947 et 1949. Dans le chapeau, donc le petit texte en tête de ces articles, on lit cette phrase « L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre » et je ferai réagir juste après Nadaïef et aussi sur cette idée. Mais d'abord Alain Grech, contrairement au refus de contextualisation qui était dominant justement il y a un an, qu'il est peut-être un peu moins, on l'espère en tout cas aujourd'hui, il faut sans cesse rappeler que ça n'a pas commencé à cette date, sans toutefois nier l'importance du 7 octobre.
Bien sûr. Et c'est intéressant de savoir que les médias occidentaux, en tous les cas, dans les années qui ont précédé le 7 octobre, ont totalement ignoré la Palestine. Il y avait des informations sur la Palestine quand il y avait ce qu'ils appelaient un attentat terroriste, c'est-à-dire qu'il y avait un Israélien qui était tué. Mais il y a eu des centaines de Palestiniens tués dans les mois et les années qui ont précédé. Il y avait la poursuite de la colonisation, les agressions contre la mosquée Al-Aqsa, la multiplication des prisonniers politiques. Ça, c'était de la non-information. Donc, je comprends qu'une partie du public français ait cru que le 7 octobre arrive c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et ça, c'était un mensonge. Il a fallu beaucoup de temps pour rétablir ça et dire que c'est quand même le résultat d'une occupation dont la Cour internationale de justice a dit qu'elle était illégale tellement elle était longue. Une occupation peut être légale, c'est-à-dire régie par le droit international, mais dans le cas de la Palestine, la Cour internationale de justice vient de dire que c'était illégal tellement c'était long. C'est-à-dire 70 ans, c'est plus une occupation. D'ailleurs, pour Israël, c'est plus une occupation, c'est une annexion de facto, avec la volonté en même temps d'expulser ou de réduire les Palestiniens à des bantoustans sans pouvoir, et voilà.
Nadaïef, je parlais de Nakba à l'instant. Vous avez consacré un article à ce terme, article publié par Orient 21 le 18 décembre 2023, Journée mondiale de la langue arabe. C'est un terme que vous avez qualifié à ce moment-là de terme de mot de l'année 2023. Dans le recueil que j'ai cité en introduction, donc Ma mort apporte l'espoir, poème de Gaza, que vous avez confectionné, donc vous ne vous êtes pas arrêté non plus à cette date du 7 octobre, puisque l'ouvrage compte 17 poèmes écrits depuis le 7 octobre 2023, enfin c'est vraiment la fin de l'année 2023, et 32 poèmes qui précèdent cette date. Vous soulignez l'espoir, c'est le titre d'ailleurs du recueil que vous avez choisi pour le recueil. Vous soulignez aussi l'absence de haine dans ces poèmes, mais sans cette précision de date avant, après le 7 octobre, on pourrait tout à fait croire que tous ces écrits, tous ces poèmes ont été composés après cette date du 7 octobre en fait.
Absolument, parce qu'ils sont terrifiants par l'atmosphère qu'ils donnent à sentir, à voir. On a l'impression qu'on est encore sous les bombardements. Parce qu'il y a eu plusieurs guerres successives contre Gaza, que les Israéliens désignent par un terme cynique de tondre le gazon. Et il y a, on retrouve des constantes dans ces poèmes entre ceux d'après le 7 octobre et ceux d'avant le 7 octobre. Et cette, dans un des poèmes, d'ailleurs, la poétesse dit qu'un jeune homme regarde son pays de loin et il fait face aux Nakba qui vont... qui viennent. Et moi, j'ai gardé, j'aurais pu traduire par au désastre qui viennent, mais j'ai gardé au Nakba, parce qu'en fait, cette Nakba qui a été le mot de l'année 2023, parce qu'elle est revenue dans toutes les, tous les journaux, tous les médias, avec le nom arabe. Non pas, ils n'ont pas parlé de catastrophe, de nettoyage ethnique de 1947 ou 48. Ils ont parlé de Nakba. Donc c'est devenu quelque chose qui est vraiment un concept
voilà. À la Palestine.
Et donc, celle de 48, c'est un peu la mère de toutes les Nakba, mais malheureusement, elle enfante encore d'autres qui suivent. Et même pour l'avenir, on ne sait pas comment cela peut tourner.
Comment vous avez choisi ces poèmes ?
Alors, le premier, je l'ai vu sur Internet et je l'avais traduit pour Orient 21. Qui donne son titre au recueil. J'en ai traduit un autre aussi que j'ai vu sur Internet. Et c'est là où Alain Grèche m'a dit, et Sarah, vous m'avez dit, et pourquoi pas traduire des poèmes. Surtout que pour la culture arabe, la poésie, c'est vraiment le moyen privilégié
d'expression.
Et comme la collection Orient 21 aux éditions Libertalia voulait initier quelque chose de littéraire, pourquoi ne pas commencer avec cette actualité brûlante par la poésie de Gaza ? Et elle est abondante, cette poésie. Il m'a suffi de surfer sur Internet pour avoir beaucoup d'exemples. Et j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une diversité de profils. Ils sont tous très très jeunes souvent, mais il y a quand même des différences et bien sûr des points communs. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Sarah, ce qui est frappant, c'est vraiment l'absence de haine. Moi, je me suis dit, mais comment un peuple aussi démuni, aussi terrassé, peut malgré tout ne pas, comme on voudrait le présenter, à tort, être animé de haine ?
Kalim Qattan, une réflexion qui m'a marquée en lisant la postface que vous avez rédigée pour ce recueil, Que ma mort apporte l'espoir, quand vous parlez de la nécessité du silence. Donc, je vous lis, non pas le silence, donc vous parlez du silence en disant non pas le silence de la gêne, ni celui de la complicité, mais celui qui laisse place entière à la dignité des gens de Gaza. Et vous ajoutez plus loin, il semble presque indécent d'écrire après les poètes de Gaza. On parle à juste titre de génocide, de domicide. Rami Abou Jamous a inventé ce néologisme de gazacide quand il parle de ce qui est en cours depuis un an à Gaza. Vous estimez que la parole ou l'utilité de la parole fait partie des victimes de cette guerre depuis un an à Gaza ?
Oui, bien sûr. Alors moi, je parle en tant qu'écrivain palestinien basé en France. Donc mes interlocuteurs sont... pour le meilleur et pour le pire, c'est le champ médiatique français. Donc vous imaginez bien que c'était un peu compliqué cette année passée. Alors, deux choses différentes, c'est-à-dire que dans la postface du recueil, quand je parle du silence, ça fait référence à ma propre gêne. C'est-à-dire que quand on m'a proposé d'écrire cette postface, chose qui m'a fait vraiment plaisir et honneur, et surtout j'étais très content de savoir que ce recueil existait, j'étais sincèrement gêné. C'est-à-dire que je me disais, bon, bah moi, me voilà, écrivain, assis tranquillou à Paris, dans tout mon confort. Qu'ajouter, en fait ? Pourquoi venir ajouter quelque chose ou compléter quelque chose des voix de Gaza qui sont, à mon sens, les voix à écouter, de toute façon. Donc c'était vraiment à partir de ça que j'ai commencé à écrire cette postface, à partir de cette gêne-là, qui n'est pas... Donc quand je parle de ce silence-là, je parle évidemment de parler après de très nombreux, très beaux et très difficiles poèmes de Gaza et de gens de Gaza, qui n'est pas donc le même silence que le silence que je nomme au début, qui est l'espèce de silence un peu gêné, complice, qu'on pouvait voir un peu partout dans le champ médiatique français. Je pense que oui, moi, ce que j'ai vu cette dernière année, notamment, c'est cette espèce de... Même si ça change maintenant, mais c'est les mots n'ont plus de sens. On a l'impression, parfois, on avait des débats qui n'avaient pas de sens. On ne voulait pas nommer les choses. Donc, on persiste à ne pas vouloir nommer les choses. On persiste à ne pas vouloir, évidemment, contextualiser la situation, à ne pas vouloir montrer la situation. Je pense que il y a ce refus, orchestré par Israël notamment, d'élaborer une iconographie, une narration et un récit total de ce qui se passe à Gaza. Une chose qui me frappe, et c'est pour ça que les poèmes me semblent aussi importants, c'est qu'on est dans une telle succession d'horreurs qui se suivent à une vitesse quand même extraordinaire, que une nouvelle horreur vient effacer l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité, notamment, comme vous le disiez, parce que Israël interdit aux journalistes étrangers d'entrer dans Gaza, on n'a pas la capacité à élaborer encore un récit global. Et je pense que c'est fait exprès, hein, c'est pour nous empêcher de saisir dans sa globalité ce qui se passe. Et voilà, et je pense que les poèmes pris ensemble permettent, dans le champ littéraire, de commencer à prendre conscience de l'étendue de la destruction avant et après, et pendant, parce qu'on reste quand même dans un continuum, et en même temps d'entendre un peu voilà, ces récits qui, par ailleurs, sont silencieux. Voilà.
Alors, c'est très intéressant parce que vous parlez d'iconographie, de récits élaborés par Israël. Tout à l'heure, Alain Grèche parlait de champ médiatique. Et puis, il y a votre roman, Les Dan à l'aube, et qui dénote au milieu de tout ça. C'est une histoire d'amour entre deux Palestiniens, deux hommes palestiniens, Gabriel et Isaac. Et je vais lire donc c'est une histoire d'amour qui commence de manière très poétique et qui finit mal. Ouais. Dire ça comme ça, pudiquement. Voilà. Et dans le compte rendu que Jean Stern avait fait de votre roman sur Orient 21, il a cette phrase: les soldats israéliens ne défendent pas les garçons palestiniens, homosexuels ou pas, ils les tuent. Et justement, et à ce moment-là, on a cette image que nous avons tous et toutes vu passer, de ce soldat israélien à Gaza qui arbore le drapeau LGBT, donc arc-en-ciel. Et on sait, on est en France, on sait depuis plusieurs années, l'Eurovision, le Tel Aviv sur scène, etc., toute cette entreprise de présenter en fait alors Israël et plus particulièrement Tel Aviv comme une ville gay-friendly, donc progressiste, donc un petit noyau de progressisme et de tolérance et d'ouverture dans l'océan d'intolérance du Proche-Orient.
Alors, c'est un peu compliqué de faire aujourd'hui, de parler de l'Éden à l'aube aujourd'hui, dans la mesure où c'est un livre, vous imaginez bien, vous connaissez bien même les temporalités de l'édition, c'est un livre qui a été écrit et qui a été fini bien avant le 7 octobre, qui était prévu pour cette rentrée littéraire, et bon, il est sorti dans ce contexte. C'est aussi quelque chose d'un peu compliqué, c'est-à-dire qu'avant la sortie, je me suis dit, bon, est-ce que je fais une préface ? Est-ce que je change un peu le texte pour l'adapter un tout petit peu à cette nouvelle séquence historique ? Et après avoir beaucoup réfléchi, j'ai choisi de ne pas le faire, surtout pas la préface, parce que je me disais, voilà, il y a deux temporalités. Il y a la temporalité de la crise et de l'actualité, j'écris des tribunes pour ça, plutôt, et la temporalité du temps long du roman qui s'inscrit dans une histoire qui, on l'espère, n'est pas seulement inféodée aux paramètres de la destruction israélienne. Et vraiment, après avoir beaucoup réfléchi, je me suis dit, je veux pas, en fait, que ce texte il soit écrasé par la destruction israélienne. Ce qui me met dans une position un peu bizarre, parce que quand je dis ça, c'est pas comme si je niais ce qui se passait, c'est juste que je conçois qu'il y a deux temporalités et qu'il faut gérer les deux en même temps. J'ai pas écrit mon texte pour répondre aux Israéliens. Et surtout, j'écris pas mes textes pour expliquer des choses aux Français. Mes romans, en tout cas. C'est jamais mon objectif. J'ai constaté, en effet, que les gens étaient étonnés, souvent, de lire un texte, par exemple, où la question de l'homophobie n'est pas posée. Elle n'est pas posée parce que j'ai pas envie de la poser dans ce texte. J'avais envie, comme la question de l'occupation est posée à plein d'égards, mais sans être structurante, c'est-à-dire que, en fait, j'avais envie tout simplement que ces deux personnages puissent vivre relativement libres, heureux et métamorphosés dans leur territoire, de leur destin qui est cette Palestine. Et je voulais essayer de voir si au moins dans le roman, c'était possible d'imaginer ces choses-là. Alors, comme vous le dites, ça ne se termine pas super bien, mais j'espère que pendant un grand moment, ça permet d'imaginer aussi les joies, parce qu'on ne peut pas être, déterminé seulement par les paramètres de notre destruction. Enfin, on l'est de fait, mais c'est toujours important de trouver les poches aussi de résistance par la joie qui peuvent exister, qui paraissent très très lointaines aujourd'hui. Et encore une fois, je veux insister, c'est pas, je dis pas ça pour déconnecter le réel complètement assommant et écrasant de ce qui se passe, mais je trouve ça important, trouver ça important aussi de garder cette réalité.
On s'arrête quelques minutes pour une première pause musicale et on vous retrouve juste après.
فرحا بشيء ما خفي كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين كنت أمشي فرحا بشيء
heureux de quelque chose. C'était la chanteuse libanaise Tania Salah qui vous accompagnera, Nadia Yafi, à l'Institut du Monde Arabe le samedi 16 novembre. c'est ça.
9 novembre. 9 novembre. Ça a changé.
Pour une lecture de poèmes à deux voix, en arabe et en français, parce que oui, j'ai oublié de... Je sais plus si je l'ai précisé, mais c'est une édition bilingue de ce recueil. Dans ce morceau, donc, qui est une mise en musique d'un poème de Mahmoud Darwish, Tania Salah prend des libertés quand même dans l'agencement du poème pour l'adapter à la musique. Elle ne commence pas où le poème commence. Elle change un peu l'ordre des vers, des strophes. Quand vous traduisez de la poésie, et d'ailleurs vous mettez en quelque sorte ce recueil sous le parrainage aussi du poète palestinien Mahmoud Darwish, est-ce que vous prenez aussi des libertés avec le texte source ?
Alors j'essaie de ne pas en prendre beaucoup trop, mais la traduction ne peut pas être littérale. Même la traduction diplomatique, la langue est fonctionnelle, elle restitue le sens. Mais il y a une manière de restituer le sens selon chaque langue qui est un peu particulière à la langue. Chaque langue a son génie propre. Alors la forme est beaucoup plus importante dans la traduction littéraire et poétique surtout. La poésie, c'est aussi de la musique. Et il faut restituer à tout prix une musicalité de la langue. Et la poésie, elle s'adresse à la sensibilité du lecteur. Donc il faut solliciter cette sensibilité pour restituer l'émotion qu'on a ressentie à la lecture du poème, que le poète a voulu aussi transmettre. Et on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire, parce que ça reste mystérieux, surtout dans certaines métaphores très ésotériques. On se dit, mais je ne vais jamais pouvoir. Alors, il y a forcément une réécriture qui reste un peu subjective, un peu, parce que je reste quand même très humble devant ces voix de Gaza. J'essaie vraiment de les servir au mieux et de transmettre ce que elles ont essayé d'exprimer. Parce que cela fait partie du narratif, comme disait Alain tout à l'heure et Karim. Il y a une bataille de la communication et ces poèmes, c'est une forme aussi de communication et de résistance. Ça fait partie du narratif. Et donc, j'essaie de retrouver dans la langue française ce qui peut atteindre un lecteur français. Donc, je laisse dormir un peu une première traduction, puis j'y reviens une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et je la lis sans, après, une fois que j'ai essayé de restituer le sens, comme si c'était un texte français que j'avais écrit ou quelqu'un avait écrit directement.
De manière autonome.
C'est important. Je voudrais juste faire un commentaire sur la chanson de...
Oui, de Tania Salah.
Bah, elle est très 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 belle, cette chanson. Je pense qu'elle va la chanter a cappella lors de la lecture bilingue. Parce qu'elle parle d'une défaite devant l'amour et d'une défaite assumée, acceptée, mais uniquement devant l'amour. En fait, devant l'humanisme, devant... Là, on peut s'incliner, mais pas devant la violence brute. Et ça, c'est tout le message, en fait, de cet espoir-là.
Le 9 novembre, donc samedi 9 novembre, l'Institut du Monde
Arabe. À 19h.
À 19h, pour vous écouter toutes les deux. On va s'éloigner légèrement de la poésie pour revenir vers plus de politique, on va dire, au sens journalistique du terme. On parlait du Liban avec Tania Salah. On sait ce qui se passe aujourd'hui. Alors, depuis un an, avec le bombardement du Sud-Liban et plus intensément maintenant depuis un mois à peu près au Liban, Alain Grèche, on remarque quand même, c'est assez frappant, il y a une similarité dans les méthodes employées par Israël entre Gaza et le Liban.
Oui, avant on parlait en Israël de la doctrine d'Ahyé, qui était la doctrine inventée par les Israéliens au moment de la guerre de 2006, disant en gros, si on reçoit des missiles du Hezbollah, nous allons détruire tout le quartier qui était d'Ahyé, ça veut dire la banlieue du sud, qui était le fief du Hezbollah. Et maintenant, au Liban...
Avec l'idée, donc, que si on bombarde suffisamment fort, les Libanais ne vont pas énervés contre nous, mais vont se retourner contre leur Hezbollah.
Voilà. Et là, maintenant, on parle au Liban de la doctrine Gaza. Mais moi, il y a une chose qui me frappe, qui m'est venue récemment, c'est la similitude entre cette stratégie et les stratégies coloniales traditionnelles. C'est-à-dire la stratégie française pendant la guerre d'Algérie, la stratégie américaine au Vietnam et en Indochine, la stratégie en Afrique australe, c'est-à-dire regrouper les populations locales dans des Bantoustans ou
Peut-être expliquer ce que c'est qu'avant tout ce temps, parce que
c'est-à-dire, tout le monde ne sait pas forcément. Disons dans des réserves, comme des réserves pour Indiens. Mais c'est exactement la stratégie américaine.
Ça vient d'Afrique du Sud, hein, le terme vient d'Afrique du Sud.
Mais c'est exactement la stratégie américaine de lutte contre les Amérindiens. C'est-à-dire les regrouper et les rendre impuissants à tous les sens du terme, culturels, politiques, mais pas seulement politique, c'est-à-dire de détruire de l'intérieur leur société. Et là, je crois que réellement, il y a longtemps, on n'a pas assisté dans un théâtre de guerre à ce que les Israéliens sont en train de faire à Gaza, au Liban. Au Liban, ils détruisent, ils détruisent pas seulement, mais en priorité, tous les rassemblements chiites, avec l'idée de casser la communauté, de la retourner contre le Hezbollah, et d'en faire une masse informe, pas capable de se défendre. Et ça, c'est vraiment, quand on parle de l'aspect colonial d'Israël, on parle souvent de la colonisation au sens conquête des terres, mais là, il y a quelque chose qui, à mon avis, est consubstantiel au colonialisme depuis la conquête des Amériques, et qu'on voit se développer.
Au colonialisme de peuplement.
Voilà.
Donc, on parle de destruction, d'annexion aussi, c'est ce qui se joue aujourd'hui, notamment dans le nord de Gaza, et on sait, pour certainement ceux et celles qui suivent l'actualité depuis à peu près une semaine, il y a une véritable stratégie pour affamer la population, détruire donc tout le nord de Gaza qui est assiégé aujourd'hui. Il y a dans cette destruction méthodique du territoire, ou la volonté de l'annexer, il y a toujours la question de la topographie qui entre en jeu, les lieux, les endroits, les lieux de vie. Et ce qui frappe, je reviens à votre roman Kalim Qatan, à l'Eden à l'aube. Effectivement, si c'est un roman, c'est de la littérature et c'est une autre temporalité, mais ça se passe en Palestine, donc ça n'échappe pas forcément au lieu où ça se passe. Il y a quand même cette question de la géographie qui est assez frappante, parce qu'à la fois, en gros, à un moment, les deux personnages principaux, Gabriel et Isaac, ils décident un peu de partir en vacances dans leur propre pays. Et donc, ils sillonnent, autant que faire se peut, ce pays. On nous parle ce village qui est sur les collines. On nous parle de maisons d'hôtes. On a l'impression qu'on est dans un pays comme un autre, où les gens vivent normalement, où ils peuvent être joyeux, profiter des moments. Bien sûr, il y a les checkpoints, il y a les soldats, mais il y a ça aussi. Et ça rappelle aussi, dans la postface donc, du recueil, vous racontez 6 souvenirs de Gaza, qui datent de votre enfance, et il y a la même idée qui revient de « Ah ben, après, à Gaza, on va à la plage comme partout ailleurs dans le monde ».
C'est très important, je pense. Alors, notamment pour Gaza, je pense qu'il y a une chose qui n'est pas nouvelle, mais qu'on constate à chaque fois, mais cette fois de façon particulièrement aiguë, c'est cet imaginaire, en fait, que Gaza serait une chose. Il y a un truc qui s'appelle Gaza, cet endroit, comme s'il n'y avait pas une pluralité de réalité urbaine en tout genre dans cet endroit qu'on appelle Gaza.
Oui. Et d'ailleurs, surtout, vous ne dites pas Gaza, mais des Gaza.
Des Gaza, oui. Et surtout, et y compris quand c'est très bienveillant, on ne commence, par exemple aujourd'hui, quand on dit Gaza, ce qui vient dans l'imaginaire, c'est la destruction. C'est-à-dire qu'on imagine que Gaza est une chose abstraite, faite de décombres et de corps mutilés. Alors, de fait, c'est ce qu'est Gaza aujourd'hui, évidemment. Mais ça fait, je pense, quelque chose d'un tout petit peu pervers, où du coup, c'est un truc autoréalisateur. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est pas qu'on se dit, mais c'est comme si c'était le destin de Gaza. En fait, comme si Gaza était un espace destiné à la destruction et où la mort violente est normale. Et c'est important, surtout si maintenant que ça commence à faire un bout de temps, de se rappeler que ce n'est pas le destin de Gaza, en fait, en réalité. Et que la seule image de Gaza qu'on a ne peut pas être celle-là. Que c'est important, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, pour revenir au poème, c'est ce qu'on voit dans les poèmes, c'est ce qu'on voit juste quand on écoute et qu'on regarde et qu'on entend des gens de Gaza parler, c'est aussi leur ville au pluriel, leurs endroits, leurs espaces, leurs jardins, leurs plages, etc. Et c'est important parce que ça contribue vraiment à créer cette à normaliser, en fait, la destruction des espaces palestiniens et la mort violente des Palestiniens. Et faut y faire attention, je pense. Je remarque aussi, pour revenir peut-être à l'iconographie rapidement, on est habitué maintenant, évidemment, en termes de vision, de voir des bâtiments éventrés. Alors c'est, bah voilà, c'est l'horizon de Gaza, ce sont des bâtiments éventrés. L'effort qu'il faut faire, c'est imaginer ce qu'il y avait là avant, en fait. Parce que c'est seulement aussi comme ça qu'on peut en permanence vraiment rappeler à quel point c'est une catastrophe organisée. Et donc voilà, cette idée de la topographie, ça s'applique aussi différemment à la Cisjordanie, au reste du pays, mais c'est vrai qu'à Gaza, c'est particulièrement visible, cette mort rendue normale.
Et non seulement il faut imaginer et se rendre compte en fait qu'on peut mener une vie normale et que ça peut être un lieu de vie, Gaza, mais même les fois où au milieu de la destruction, les Gazaouis vont vivre une vie normale, on va limite les stigmatiser pour ça. Alain Grèche, vous vouliez justement parler d'une chronique de Rami Aboujamous à ce propos.
Rami Aboujamous avait envoyé une chronique à propos de photos où on avait vu des Palestiniens se baigner. Et alors, on avait eu tout de suite un déchaînement. Regardez de la presse occidentale, en fait, ils sont pas si malheureux que ça, ils se baignent, etc. Sans se rendre compte que, justement, cette pulsion de vie, c'est la forme de résistance à ce qui leur arrive. De même que les poèmes sont une forme de résistance, là, oui, on peut vivre. Et dans toutes les situations terribles, il y avait eu aussi une image, je ne sais pas si vous en souvenez, de la télévision française, je ne sais plus quel grand journaliste avait montré un marché à Gaza en disant « Regardez, c'est très bien approvisionné ». Et Daniel Schneiderman avait répondu...
Je mets juste du contexte, c'était sur LCI, et c'était au moment où on parlait de famine Gaza. Et donc, il y avait sur LCI, où on avait utilisé, c'était très pervers, on avait utilisé les outils de ce qu'on appelle le fact-checking pour montrer que, en fait, cette image était tout à fait réelle, et que, CQFD, il n'y avait pas de famine à Gaza.
À quoi Daniel Schneiderman avait répondu dans une chronique en montrant une photo du ghetto de Varsovie en 1943 où on voit un marché achalandé. Et c'est vraiment ça. Et cette pulsion de vie, je veux dire aujourd'hui, c'est la forme de résistance des Palestiniens. Et à propos de Rami Aboujamous, une des choses qui est le plus émouvante, c'est qu'il a un enfant de 2 ans et il vient de décider avec sa femme est enceinte aujourd'hui, dans ces conditions, elle est enceinte et ils attendent un enfant. Et je trouve que c'est un formidable espoir et c'est aussi une manière de dire on est là, on ne va pas disparaître.
Oui, il l'exprime comme tel d'ailleurs, parce qu'il disait on pensait s'arrêter là, on ne voulait pas d'autres enfants et finalement on a décidé, on a pris cette décision à deux parce que c'est une forme de résistance.
Et la manière dont il parle à son enfant pour déguiser le bruit des avions en jeu, c'est vraiment bouleversant.
Qu'il applaudisse à chaque...
Oui, absolument. Et moi, ça m'a fait penser à ce que disait Mahmoud Darwish dans un de ses poèmes, « Car nous aimons la vie, pour peu que nous en ayons les moyens. » Et cette pulsion de vie est très importante. Et dans ses poèmes, il y a aussi des éclairs de joie. Il y a un peu d'humour. Il y a du désir, il y a de l'amour. Il y a vraiment tout ce qui fait le tissu de la vie et que Israël cherche à détruire, malheureusement. Et je voudrais revenir juste sur un point commun entre le Liban et Israël. C'est que, je ne sais pas si c'est un hasard...
Le Liban et Gaza.
Le Liban et Gaza. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais les Palestiniens et les Libanais étaient les peuples les plus instruits de la région, les plus scolarisés, malgré la situation désespérante des Palestiniens, et grâce à l'UNRWA notamment. Et je me demandais, pour citer Jacques Chirac, qui disait en 2006, c'est à se demander si Israël ne veut pas détruire, s'il n'y a pas une volonté d'Israël de détruire le Liban. Et je me disais qu'il y a une volonté de détruire un pays, en tout cas le Liban, qui risque d'être un rival pour Israël, parce qu'il est à la fois occidentalisé et c'était jusqu'à un certain moment une démocratie avec une relative liberté d'expression. Donc s'il n'est pas vassalisé, si les pays autour ne sont pas vassalisés, il faut les détruire et recomposer un Moyen-Orient à leur guise, en lien avec l'impérialisme américain. C'est toujours cette idée qui revient de recomposition du Moyen-Orient.
Donc, vous parlez de l'UNRWA. Donc, je rappelle que c'est l'agence onusienne qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Je rappelle aussi que les droits d'auteur de l'anthologie que vous avez dirigée sont versés justement à l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui a été, comme on s'en souvient, accusé et discrédité par les Israéliens et par Benjamin Netanyahou.
À tort,
évidemment. Et c'est important de rappeler qu'il ne s'agit pas juste de, effectivement, prodiguer, construire des écoles, prodiguer des soins, etc. Mais c'est aussi permettre de garder vivant ou de conserver le droit au retour,
absolument,
en fait, et le statut de réfugié des Palestiniens de la diaspora. On va prendre une deuxième pause musicale et on revient juste après.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Quelqu'un m'a dit, mais...
ينقص في سلاحف بحري يقتل حيوانات بشري تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنصف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنسانا راق ومطابق للاشتراطات كل كلامك لابس واقع وبتحضن كل الشجرات بتقول عالبواب الحارس جنب الجيش بيد مدارس وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضناه علشان مات في الغار جعان ويساوي المقتول بالقتل بشرف ونزاهة وحياته وتلك قضية وتلك قضية سددت أذنين والعيلة المدفونة في بيتها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجن واسع سنسينا ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنقاض تتشعل في رقاب القاتل تجمع أشلاك وتقاتل وتوري الدنيا الكدابة الدبابة
مش فارق العالم يتكلم موت حر وما تعيش مسلم تلم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بالنادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين فين كما شئت فايدان لما يجري جوه السلخان مش هخف برود الدان ولا قادر اتركه لصباح تلك قضية هذا كفايه
Toujours sur Radio Aligre 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur le DAB. Habiter une vaste prison aux cellules de feu et de cendres et pouvoir surgir des décombres en s'arrachant à ses blessures pour rendre gorge à l'assaillant, pour dire à ce monde hypocrite, c'est là votre loi de la jungle. Trouver la voie de la liberté, savoir pulvériser un char, ça c'est une chose et ça, c'en est une autre. Nadaïef, c'est une partie de la traduction de la chanson en fait, qu'on vient d'écouter, Tel Kardaïa du groupe égyptien Kairoki, que vous avez traduite, qui a été publiée sur Orient 21. Que symbolise cette chanson ?
Ça symbolise les deux poids, deux mesures. Et ça symbolise aussi le paradoxe qu'il y a dans les sociétés dites démocratiques à défendre les libertés individuelles et à ignorer le droit des peuples à la lutte pour la libération. C'est quelque chose qui est assez fascinant. C'est-à-dire, j'adore cette chanson et j'aime beaucoup l'article que vous avez écrit, Sarah, sur Orient 21. Et dans cette chanson, il y a, avec un accent nonchalant, égyptien, et une musique assez entraînante, il y a des mots très simples, mais très durs, qui secoue un peu la conscience de ce qu'on appelle, peut-être de manière un peu grossière, l'Occident. Parce qu'on ne peut pas mettre tous les pays dans le même paquet, et même au sein d'un pays, tous les gens dans le même paquet.
En tout cas, mais les gouvernements occidentaux.
Les gouvernements occidentaux, bon, il y a quand même l'Espagne, la Norvège,
l'Irlande.
Un peu d'espoir.
C'est Mostafa Ibrahim, le poète de la Révolution égyptienne de 2011, qui signe ces paroles. Alain Grech, là aussi, sur ce plan aussi, un avant-après 7 octobre.
Oh oui, tout à fait. Tout à fait, parce que, je veux dire, ces gens que nous écoutons, cette chanson, cette chanson, elle est écrite par des gens dont le modèle jusqu'à présent était l'idée de nous voulons une société démocratique et à la limite, l'Europe, quelque part, représentait un modèle.
Mmh. Oui, c'est là, juste une parenthèse. Donc, Kairoki, le groupe qui chante cette chanson, ouais, il se fait connaître en 2011 avec une chanson. C'est la chanson de la Révolution égyptienne,
oui,
en fait.
Donc, c'est ces gens qui aspirent et qui, brusquement, se sentent trahis par l'Occident. Et c'est terrible, parce que, d'une certaine manière, ça donne... C'est une manière de donner raison aux dictateurs de ces régimes qui leur disent « vous vous battiez pour ce modèle, regardez ce qu'ils font avec la Palestine, comment on peut croire à leur discours ?» Et je pense que, bien sûr, c'est le peuple palestinien qui paye le prix le plus grave, mais le fossé que nous avons créé entre l'Orient et l'Occident, même si c'est évidemment plus complexe des deux côtés, je crois que nous allons le payer très cher et très longtemps.
Kalim Khatan, vous êtes romancier palestinien francophone. Ça ne court pas les rues. Tout à l'heure, vous disiez que votre public... Bah, oui, dans le sens où voilà, les Palestiniens sont plus généralement anglophones. Tout à l'heure, vous disiez que votre public, il est, c'est le public français et francophone. Justement, dans cette idée d'être un écrivain palestinien arabe et parler à une société occidentale, est-ce que justement on... Est-ce qu'on vous le fait sentir, ce fossé qui se creuse, ou est-ce que vous le ressentez, ce fossé qui risque de se creuser ou qui est en train de se creuser ?
Oui, alors peut-être pour apporter une toute petite correction, mon public n'est pas français et francophone, mais juste francophone. Les Français oublient qu'ils font partie des francophones en général. Ils pensent que les francophones, c'est les autres. Et je suis très attaché justement à pouvoir être francophone. Oui, alors moi je fais partie des gens déçus, parce que moi, franchement, et pourtant, je suis pas non plus tout jeune, mais quand même, au fond de moi, naïvement, j'avais véritablement une confiance ou une espèce d'attente, notamment de la part de, entre guillemets, la classe intellectuelle française. C'est-à-dire que j'avais une attente. Je me disais quand même, il y a quelque chose là, hein, quand même, à un moment, mes collègues, les écrivains et les écrivaines, collectivement, ils vont dire quelque chose, faire quelque chose, ne serait-ce que au sujet des écrivains et écrivaines qui se font massacrer à Gaza. Ne serait-ce que ça. J'avais une attente. Donc moi, je fais partie des gens déçus. Bêtement, quand je dis bêtement, je veux dire au sens où on pouvait deviner que ça allait être comme ça. Mais je pouvais pas m'empêcher d'être déçu. Je réfléchis beaucoup à ce terme de déshumanisation qu'on utilise énormément, et je commence à vraiment l'interroger. C'est-à-dire que quand on dit déshumanisation, on suppose... En fait, c'est comme si on nous considérait comme humains, et par un certain processus, on a arrêté de nous considérer, nous les Palestiniens, comme humains. Moi, au bout d'un an, ce que je commence à me dire, c'est que tout simplement, on nous a jamais considérés comme humains. C'est une réalisation très, très étrange, hein, de me dire, mais non, finalement... peut-être qu'on n'a juste jamais considéré que les Palestiniens étaient des humains. Et oui, je le sens, et ce fossé est énorme. Après, voilà, il faut aussi peut-être un tout petit peu le placer, c'est-à-dire que, en tout cas dans mon expérience, quand je parle à des gens, ou que ce soit en France, j'ai pas cette impression-là. C'est vraiment quand je suis plutôt dans le champ littéraire, médiatique, etc., où je le sens très, 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 très fort, mais pas quand on discute avec des gens. Faut pas l'oublier, quoi. Ça me donne pas mal d'espoir, quand même, parfois.
Mais c'est quand même un vrai retour de l'idéologie coloniale. Moi, je suis frappé de ça. C'est-à-dire que peut-être parce que l'Occident se sent en fin de course, parce qu'il se sent menacé, parce qu'il y a l'idée, quand même, globalement, l'idée fondamentale de la Révolution française qui est nous sommes tous égaux, et qui n'a pas été mise en place dans les colonies, on le sait, mais qui petit à petit a eu l'air de s'imposer, brusquement elle est aujourd'hui remise en question, et on assiste à un extraordinaire retour en arrière, quand les dirigeants israéliens parlent d'animaux humains, etc., mais quand on voit les médias parler de la vie d'un enfant palestinien ne vaut pas la vie d'un enfant israélien, il y a vraiment des choses qui sont très profondes, et moi, je trouve ça très inquiétant.
Ouais, complètement.
Oui, oui, et puis vous le disiez, c'est-à-dire qu'on s'attendait même à un minimum de solidarité, même quelque part au nom d'un corporatisme presque, que les écrivains se solidarisent avec les écrivains, que les universitaires se solidarisent
Absolument,
avec les universitaires.
Considérer tout simplement que les Palestiniens ont des intériorités, et ne sont pas juste une masse massacrée aussi.
Oui, tout à fait.
Alors, je voudrais mettre un petit bémol pour la jeunesse qui est quand même très, très, très affectée et très mobilisée. Ah. Et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur parce que dans les manifestations, ils disent « Nous sommes tous des enfants de Gaza ».
Oui, tout à fait. Oui, et puis justement, c'est la petite note d'espoir, effectivement, parce que ce qu'on disait tout à l'heure quand on parle d'Occident, c'est vrai qu'on... On pense plus à la majorité des gouvernements occidentaux, mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui nous donne une petite note d'espoir de voir justement dans les manifestations aux États-Unis, il y a quand même une grande partie de la communauté juive qui est mobilisée. Il y a les étudiants, il y a en fait une jeunesse qui n'est ni arabe ni musulmane et qui se reconnaît en fait juste par son appartenance humaine dans ce combat. Nadaïef, vous allez garder la parole, vous allez nous lire un poème de ce recueil. C'est le poème qui donne son titre au recueil.
Absolument. Le titre, c'est « Que cela devienne une histoire » de Rifat al-Araïr. Il a été tué quelques jours après avoir écrit ce poème. S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra alors de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une toile et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant, quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement, sans avoir fait d'adieu, à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant, quelque part, à Gaza, puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il est écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire.
Merci beaucoup, Nadayafi. On va finir là-dessus. Je rappelle qu'Alem Khatan, donc vous avez aussi des interventions demain et après-demain, c'est ça, à Saint-Denis, à Paris. Vous voulez rappeler le lieu et l'heure?
Oui, à la Petite Denise, à Saint-Denis, jeudi et vendredi, au Mois à la Bouche, à Paris.
Merci beaucoup. Merci Alain Grèche, Nadayafi et Kalim Khatan d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aux auditeurs et aux auditrices. Et nous vous retrouvons dans deux semaines. Alors demain, n'oubliez pas que demain à 8h, il y a une rediffusion de cette émission. Et nous vous retrouvons dans deux semaines avec Michael Poron d'Afrique 21. Bonne soirée.
Vous écoutez Aligre FM 93.
Bravo, ça va. C'est bien, t'as pu place. لسه الأغاني